Kid.
Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de fenêtres. Eh oui, les fenêtres sont tellement banales qu'on les prend presque pour acquises, à part pour le fait qu'on doive les nettoyer fréquemment puis les changer de temps en temps. On imagine mal s'en passer dans nos maisons, dans nos bâtiments. Pourtant, elles n'ont pas toujours fait partie de l'architecture de nos constructions, encore moins lorsqu'on parle de vitres. Les fenêtres, voici Sophie Croteau.
On a découvert comment fabriquer du verre en Mésopotamie autour de 2500 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'au 1er siècle après Jésus-Christ que les Romains eurent l'idée d'utiliser ce matériau, qui est encore fabriqué avec les mêmes ingrédients aujourd'hui, pour boucher les fenêtres de quelques-uns de leurs bâtiments. Parce que oui, il y avait bien sûr des fenêtres partout dans le monde, mais elles n'avaient pas tout à fait la même fonction et n'étaient pas faites des mêmes matériaux. Au Moyen-Orient, on utilisait par exemple des coquilles d'huîtres ou des vessies d'animaux traités ou tout simplement des panneaux de bois taillés ou tissés. En Orient, c'était plutôt des panneaux en papier de riz qu'on glissait au besoin et qui servaient à la fois de fenêtres et de murs. En fait, l'idée de transparence n'était pas particulièrement importante. Ce qu'on voulait, c'était avant tout de se protéger des rayons du soleil et de la trop grande chaleur. Lorsque les Romains commencent à utiliser du verre dans leurs bains publics pour contrôler la température, plusieurs se plaignent d'ailleurs qu'il y a soudainement trop de lumière, même si les fenêtres étaient à peine translucides. Mais la technique se répand partout dans l'Empire et est récupérée par les chrétiens pour leurs églises dès le Moyen Âge. Le verre coûtait alors très cher à produire, entre autres parce que c'était un métier dangereux à faire, et on le colorait souvent pour cacher les imperfections. La technique demandait qu'on le coupe en plus petits morceaux, comme il était difficile de faire de grands panneaux, qu'on joignait ensemble avec du plomb. Ces vitres mosaïques sont toutefois très impressionnantes lorsque vues de l'intérieur, alors qu'elles semblent noires du dehors. Et l'Église chrétienne a donc l'idée de les utiliser pour raconter des histoires, mais surtout augmenter l'expérience religieuse en créant un sentiment d'illumination dans ces bâtiments. Sauf pour quelques aristocrates qui peuvent se le permettre, les fenêtres en verre sont encore rares dans les maisons où on utilise surtout des volets en bois et des rideaux qui sont plus pratiques et qui aèrent mieux, tout simplement parce qu'on peut les ouvrir. On retrouve aussi des panneaux en parchemin ou en lin pour se protéger des voleurs qui ne sont pas transparents mais plus solides. Même Da Vinci dit les préférer au verre comme ils diffusent une lumière plus douce. Au 16e siècle, c'est enfin le déclin des vitraux, entre autres à cause de la nouvelle guerre entre catholiques et protestants partout en Europe. La Renaissance marque aussi l'arrivée des livres imprimés, mais aussi de plusieurs métiers pratiqués à l'intérieur, qu'ils soient scientifiques ou artisanaux. On veut donc plus de lumière, mais aussi moins de courants d'air qui sont synonymes de microbes et d'épidémies. L'hémisphère nord connaît aussi un petit âge glaciaire, ce qui incite les gens à mieux isoler leurs fenêtres. Tous ces facteurs, aidés par une nouvelle technique qui permet de faire de plus grands carreaux, entraînent donc une lente transition vers les fenêtres en verre dans les maisons, qui va du nord au sud, des villes vers les régions et des plus riches vers les plus pauvres. Le siècle des Lumières qui suit célèbre non seulement la transparence comme idéologie, mais aussi comme esthétique. On met des fenêtres partout, au point où plusieurs se plaignent qu'il y en a trop. C'est aussi une pratique encore réservée aux riches, puisque le verre demeure coûteux à produire et à transporter. Dans les siècles suivants, on commence même à se plaindre que trop de lumière est mauvais pour la santé, et on cache ces grandes fenêtres avec des stores et des rideaux pour retrouver un peu de notre vie privée. C'est plutôt dans les bâtiments publics et les centres commerciaux qu'on voit apparaître de grands plafonds vitrés, les fenêtres devenant synonymes de vie publique et de consommation. Au début du 20e siècle, c'est l'apogée de la modernité et les architectes redécouvrent le verre comme un matériau de construction. On efface la notion de fenêtre pour créer des murs entiers faits de verre qui visent un idéal de connecter le privé et le public et donc les communautés ensemble. L'idée est malheureusement reprise par les nazis et les soviets, pour qui les fenêtres sont synonymes de transparence, mais aussi de surveillance. Après la Seconde Guerre mondiale, les immenses fenêtres en verre sont partout en Amérique et en Europe, dans les espaces publics comme privés. Les technologies de production du verre font de meilleures vitres qui sont mieux isolées et qui permettent même de fabriquer des gratte-ciels aux surfaces entièrement vitrées. Mais l'invention qui poussera le plus sa popularité est tout simplement l'air climatisé, qui permet d'avoir une agréable vue sur une journée ensoleillée tout en se gardant enfin au frais.
Ouais, si on se fie à l'histoire des fenêtres, il ne serait pas impossible qu'on dise bientôt adieu à la transparence pour retrouver un peu d'intimité, sans compter les changements climatiques qui vont aussi nous pousser à réfléchir à comment on chauffe et refroidit nos bâtiments et donc à la réelle utilité de si grandes fenêtres. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.